5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bienvenue sur les chemins de l'espace, votre rendez-vous mensuel sur ERCF. Pour tout savoir, ou presque, sur l'actualité de la conquête spatiale avec le groupe Orion. C'est bien ça, Jean-Michel ?
Bonjour, Gérard.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme chaque mois, on va donner quelques nouvelles de l'ISS, avec un dossier particulier qui est attendu, parce qu'on nous en parle souvent, c'est le dossier de la pollution de l'espace, qui commence à poser problème. Nous parlerons également des nouvelles sondes aussi, des nouvelles des principales sondes qui sont parties, dont certaines d'ailleurs sont très très loin, sorties même du système solaire. Mais pour commencer, Jean-Michel, parlez-nous un petit peu des derniers lancements. Qui a lancé quoi ce mois-ci ?
Alors, comme tous les mois, les grandes puissances spatiales lancent leurs fusées, leurs satellites, tout leur matériel d'observation. Alors, on va commencer par le 8 novembre, une petite fusée Vega de la base de Kourou en Guyane, donc l'espace spatial européen.
Voilà, donc c'est une mission européenne,
mission
fusée européenne.
Commerciale, voilà. Puisque c'était au profit du Maroc.
Voilà, c'est le satellite
Mohamed 6. CISA, exactement. Voilà. Donc, pour que chaque puissance cherche à avoir son autonomie, donc le Maroc, avec ce satellite, acquiert une autonomie d'observation, de renseignement, toute l'observation de la Terre.
Voilà, l'Europe, donc, au service du Maroc dans cette affaire. Un autre lancement du côté des États-Unis, peut-être ?
Alors, le 11 novembre, Cygnus, c'est un cargo ravitailleur de la station spatiale.
Alors, on en reparlera tout à l'heure avec l'ISS, mais donc c'est une fusée quelle fusée ?
Fusée Antares.
Fusée Antares.
Voilà.
Voilà. D'autres lancements côté
USA ? Oui, donc un autre lancement du côté de la Chine, donc une fusée CZ5 qui a lancé un satellite météo. Donc pas très haut, c'est un satellite qui est à 800 km, aujourd'hui les satellites ne sont pas forcément tous autonomes, ils participent aussi à des relais de transmission, donc c'est le cas de ce satellite chinois qui est à 800 km et qui va relier des satellites géostationnaires à 36 000 km.
D'accord. Et du côté des Russes, des Japonais aussi peut-être ?
Pour l'instant, non, il y en a en préparation, mais voilà, c'est un peu les grands lancements de ce mois.
J'avais cru noter une fusée Taurus américaine qui a lancé des satellites également.
Alors, qui avait lancé des satellites, mais c'était en début de mois, alors je n'ai pas la date exacte.
D'accord, voilà. En fait, petite activité au niveau des lancements
on va dire
cet automne.
Un mois un peu plus calme, alors il y a des mois un peu plus importants, mais des mois un peu plus calmes.
Et quoi de neuf dans l'ISS ce mois-ci, Jean-Michel ?
Toujours 6 personnes qui tournent en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes, donc avec des rotations d'équipage qui seront prévues au mois de décembre.
Il y en a, comme d'habitude, il y a
trois qui redescendent.
Trois cosmonautes, spationautes, astronautes qui descendent.
Explorateurs de l'espace.
Donc ceux qui descendent, c'est à qui le tour ? Quelle nationalité sont-ils ?
Alors il y a toujours un Russe, un Américain, il y a un Japonais, puis là vont repartir un Russe, un Américain et un Japonais.
Un Italien, voilà.
Donc, il y a un Italien, oui, qui descendait.
Il y a un Italien aussi, oui. Voilà. Donc, on rappelle quand même que ce sont donc des rotations, un séjour à bord de l'ISS est environ 6 mois.
5 mois et demi, 6 mois.
Ouais, 5 mois et demi, 6 mois. Donc, tous les 3 mois, il y a
Tous les 6 mois.
Tous les 6 mois,
il y en a qui redescend et ça repart pratiquement de suite. Alors ça, c'est lié aussi à la préparation des vaisseaux, à la préparation des équipages. Bon, il peut y avoir un retard technique, hein, ça arrive des fois. Bon, ben, un incident qui se produit sur une fusée, sur un vaisseau. Donc on dit, hop, on décale, on refait les procédures et ça peut décaler de quelques heures, voire de quelques jours.
Voilà, donc le voyage se fait à bord de Soyouz.
Oui, donc si tout va bien, là, vous allez voir que c'est très court, puisque nous avons retour sur Terre donc, de Randy Bresnik, Sergei Ryazansky et Paolo Nespoli, 14 décembre. Et 17 décembre, départ tout de suite donc du russe Anton Shklaperov, Scott Klingel, c'est un Américain, et le Japonais Norishige Kanai.
Voilà, donc capsule Soyouz.
Voilà.
À bord d'une fusée
Soyouz.
Soyouz aussi, donc oui. On rappelle bien qu'il faut distinguer la capsule de...
La Soyouz, c'est le même nom. Hein.
Du lanceur. Voilà. Et il faut combien de temps pour descendre et combien de temps pour remonter? Quelle est la durée du voyage?
Alors la durée du voyage pour descendre, c'est relativement rapide, c'est de l'ordre de 4 à 5 heures. Hein. Ça dépend comment on prend. Du départ de l'ISS jusqu'à l'arrivée, c'est relativement vite. Hein. C'est 3 heures, 3 heures et demie. Mais il y a toutes les procédures, parce qu'avant de partir, on va rentrer dans... On va dire adieu aux copains, on va rentrer dans la capsule. Et là, il va y avoir toute l'installation, la procédure de désorbitage.
Voilà.
C'est quand même très, très long. Voilà. Et puis, il faut être au bon endroit. Hein. On ne peut pas désorbiter quand on en a envie, à l'heure où on veut. Il faut que tout ça soit balistiquement prévu pour atterrir au Kazakhstan.
Au bon endroit.
Au bon endroit.
Au bon endroit.
Voilà.
Et donc, et le départ donc,
alors, le départ, toujours de Baïkonour, donc au Kazakhstan. Et le départ, alors maintenant, on a une procédure rapide, hein, de l'ordre entre 3 et 5 heures, hein, pour aller se raccrocher à la station spatiale. Auparavant, il y avait des fois 24 heures, voire plus, de tour de Terre pour aller s'approcher de la station, puis se rapprocher et de s'amarrer, ce qu'on appelle le docking. Hein. Mais aujourd'hui, les Russes ont une procédure de rendez-vous très, très rapide.
Bon, donc, ça, c'est toujours ça, être d'économiser pour les hommes et les femmes.
C'est du temps de gagner, c'est de la fatigue gagnée, voilà. Du carburant.
Voilà, parce qu'effectivement, c'est quand même assez exigu et l'espace, j'allais dire, pour monter comme pour descendre, c'est quand même un peu, petit peu serré.
C'est pas du 5 étoiles.
Jean-Michel, les hommes vont, viennent, etc. Mais il y a aussi tout le ravitaillement qui est nécessaire pour la vie à bord, les expériences, la nourriture, etc. Là aussi, il y a eu un ravitaillement.
Alors, il y a Cargo Cygnus, donc avec une fusée Antares 230.
Donc, fusée américaine.
Voilà, de la base de Wallops en Virginie. Donc, société privée, Orbital ATK. Qui était une ancienne société qui s'appelait Orbital Science. Donc, on connaît SpaceX, société privée, et Orbital ATK, qui est une société privée qui travaille pour la NASA.
Donc, voilà deux acteurs privés qui s'inscrivent effectivement dans cette grande tendance de la privatisation, recherche à l'économie, voilà. À l'efficacité peut-être aussi sur certaines missions.
Oui, parce qu'il y a concurrence entre ces différentes sociétés, et donc ça participe un petit peu à des recherches, des améliorations.
Donc, Cargo Cygnus, ça ressemble à quoi un Cargo Cygnus par rapport à un camion, par exemple?
On va dire, imaginez une grosse boîte de conserve, une grosse citerne. Hein,
mais comme voilà. Un conteneur.
Oui, conteneur, alors circulaire bien sûr, hein, puisque c'est dans la coiffe d'une fusée. Et Orbital Science a pour l'habitude de donner des noms à ses cargos. Donc celui-ci s'appelait Eugène Cernan, du nom du dernier homme qui a marché sur la Lune et qui était décédé en janvier 2017.
Exact, dont on a parlé,
dans une précédente émission.
Voilà. Il n'y a pas très longtemps, effectivement. Donc le ravitaillement, on rappelle rapidement un petit peu ce qu'il y a dans ce cargo.
De la nourriture, de l'eau, du carburant, hein, puisque là il y avait 3350 kilos de fret, hein, on va dire, tout confondu entre ces... Et des expériences, des nanosatellites.
Alors, voilà. Donc, ce cargo, il arrive à bord de l'ISS, aux portes de l'ISS. Il s'arrime.
Il est attrapé par le bras robotique.
Voilà. Donc, là aussi, c'est une technologie bien particulière, européenne, je crois.
Canadienne. C'est canadien, le bras canadien, voilà.
Donc, en fait, on récupère ce gros conteneur et puis on le vide.
On l'accroche. Alors, on l'accroche. Aussi, ça prend tout un temps parce qu'il faut qu'il soit bien accroché. Il y a les problèmes de pressurisation, dépressurisation. Et une fois que tout ça est équilibré, ben, les astronautes peuvent pénétrer à l'intérieur et faire le déchargement.
D'accord. Et on peut le recharger derrière, j'imagine.
Alors effectivement, une fois qu'on a vidé tout ce qu'il y avait dedans, eh ben on va s'en servir pour mettre les poubelles dedans.
D'accord, bien.
Et celui-ci avec une particularité, donc il va servir à des expériences.
Sur le retour. On va en parler tout de suite. Mais entre-temps, avant de redescendre, la mission n'est pas terminée, puisqu'il va monter beaucoup plus haut que l'ISS. On rappelle que l'ISS est à une altitude de
400 km.
400 km, à quelque chose près. Ouais. Et donc, à bord de ce cargo Cygnus, en tout cas dans cette mission-là, il y a aussi la mission d'aller poser, en fait, un certain nombre de petits satellites.
14 nanosats.
Donc un nanosat, c'est quoi? Un nanosat, c'est un satellite nano. Hein, voilà.
La base, c'est nanosatellite, c'est des petits satellites. La base scientifique, c'est le CubeSat.
Alors le CubeSat, c'est
10 cm de côté.
Donc, voilà.
Un petit cube de 10 cm. Et puis après, ben, c'est l'U1, l'unité 1. Puis l'unité 2, ben, c'est 20 cm par 10. L'unité 3, 30 cm par 10, etc.
Et donc, par exemple, si on prend ce cas-là, il va en déposer combien?
14.
14 et...
Alors, de différentes tailles. Alors,
D'accord. Oui. Donc, en fait, c'est un véritable essaim de satellites. Ils sont tous au même endroit, là?
Non, ils sont largués. Alors, suivant les commandes, suivant leur utilité, suivant leur fonction, donc, ils vont être largués précisément à la demande donc, du constructeur.
Voilà. Donc, voilà. C'est 14. Il y a 14 points de livraison. C'est un livreur qui...
Voilà.
Très bien. Et donc, là, on est à une altitude beaucoup plus
10-20 km au-dessus, quoi.
Oui, mais c'est carrément beaucoup plus loin que l'ISS, quand même.
Oui, mais c'est pas très loin.
Mais on est quand même dans la banlieue proche.
On est dans la banlieue proche, c'est rien du tout, 10 km dans l'espace.
D'accord. Donc, cette opération s'est bien passée, le livreur a bien livré.
Alors, ça va se passer donc, là, au moment de la désorbitation. Hein.
D'accord. Voilà. D'accord.
Donc, ça se passera début décembre.
Donc, on ravitaille, on vide le camion.
On vide les satellites.
On vide les satellites, et puis après,
on fait une expérience aussi, une expérience médicale.
Alors,
une étude sur la résistance des antibiotiques lors des vols spatiaux. Voyez, donc on va essayer d'utiliser au maximum tout ce qu'on lance. Il faut vraiment que ça soit rentabilisé au maximum.
Voilà, l'espace qui est vraiment l'allié de l'expérimentateur, en l'occurrence.
C'est l'espace du vaisseau dans l'espace spatial.
Oui, tout à fait. Alors maintenant que les nanosatellites ont été livrés, reste maintenant à redescendre les poubelles. Alors comment ça, d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles? Comment ça se passe? Comment on gère les poubelles à bord de l'ISS?
Alors ben, une fois qu'on a, il y a tous les déchets donc humains, on va
de
dire
la vie courante de la vie courante, de l'équipage,
des déchets d'expérience, des choses qui ne servent plus. Donc ce cargo Cygnus va servir de poubelle. Donc c'est chargé. Et là, on va le précipiter dans les couches denses de l'atmosphère.
Oui, mais dans les résultats de des expériences, y a-t-il des matériaux, des objets, des matières dangereuses, particulières
Eh bien, ça peut arriver. Mais bon, jusqu'à présent, on considère que dans les carreaux ravitailleurs de l'ISS, tout se consomme dans l'atmosphère.
Alors donc, on charge la poubelle. La poubelle, c'est notre camion qui est monté, entre guillemets, et on va le renvoyer on va renvoyer sur Terre.
C'est la désorbitation.
Voilà. Et alors donc là, qu'est-ce qui lui arrive?
Alors, il y a des petits moteurs qui vont ralentir, hein, qui vont le plonger dans la couche dense d'atmosphère. Alors là, on le précipite vraiment, pour qu'il brûle très, très rapidement.
Et il brûle complètement.
Alors si on était spectateur, on verrait un joli feu. Hein. Alors, il brûle complètement, puisque sur des charges comme ça qui sont de 3 tonnes, on pense qu'il n'arrive pratiquement rien au sol. D'ailleurs, à ce jour, on n'a rien vu, on n'a rien récupéré.
D'accord. Donc là, on les guide un petit peu à un endroit particulier,
et
ou
oui,
bien c'est le hasard
Non, c'est pas le hasard. C'est une zone maritime très très large qui est le Pacifique Sud, donc où il n'y a pas de risque, disons pratiquement moins de risque. Et donc tout ce qui est poubelle est précipité sur cette zone-là. Mais jusqu'à présent, donc on n'a pas noté de retour sur des petits vaisseaux de 3 tonnes, c'est rien du tout. Hein.
D'accord. Donc tout se consume. La gestion des déchets de l'ISS.
Gestion des déchets. Alors effectivement, vous allez me dire, ben oui, on a fait des expériences. Sur les antibiotiques, et ben tout ça va brûler puisque les données après d'expérience sont transmises au sol, on n'en a plus besoin et ça reste dans l'atmosphère. Donc qu'est-ce qui se passe, bien sûr, dans toute cette atmosphère où on a laissé brûler des tas de choses?
Alors concrètement, si je suis sur mon petit radeau en plein milieu du Pacifique, c'est là que ça se passe.
Oui.
Je vois, qu'est-ce que je peux voir? Des boules de feu, je peux voir des étoiles filantes magnifiques.
Voilà. Vous êtes en pleine nuit, hein,
oui.
Et ben, vous savez que le cargo Cygnus ou autre objet se désorbite et vous levez la tête, vous voyez une très très belle météore. Hein? Alors, qui peut être un objet venu du fond de l'espace, ça c'est possible, météore, météorite, hein? Ou alors ça peut être un cargo spatial qui se désorbite.
Alors, on entrouvre la page de notre dossier du mois qui est consacré à la pollution de l'espace. Alors, nous allons voir tout de suite quelles autres formes de pollution la banlieue proche de la Terre nous réserve. Jean-Michel, nous avons vu effectivement comment étaient gérés les déchets de l'ISS, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres objets, beaucoup d'autres déchets, je ne sais pas si on peut appeler ça des objets qui constituent une véritable pollution autour de notre Terre.
Souvenez-vous, 4 octobre 1957, premier satellite Sputnik qui est lancé. Alors lui, s'est désorbité très vite puisqu'il est en janvier 1958, il s'est consumé, il était tout petit, mais depuis, plus de 5000 objets lancés. Hein, donc, dont certains en orbite basse, ceux-là vont se consumer.
5000 objets, c'est-à-dire 5000
satellites,
ou 5000, eux-mêmes composés d'un certain nombre de...
Eh oui, parce que dans ces objets qui sont en vol, vous avez des coiffes de fusées, vous avez des étages de fusées qui sont largués comme ça, livrés à eux-mêmes.
Alors concrètement, ça tourne,
Ça tourne sur des orbites, on va dire d'injection, ils ont été éjectés sur des orbites soit circulaires, soit très très elliptiques. Il y a des orbites qui sont très très elliptiques, qui vont passer à 500-600 km et qui vont monter à 3000 km. Vous voyez, c'est suivant l'injection.
Et qui reviennent de manière cyclique. Comme une comète,
voilà.
dans son domaine. Quel matériau finalement, c'est quoi? C'est de la ferraille entre guillemets?
Il y a de la ferraille, du millard, enfin de toutes les techniques, tout ce qu'on a utilisé dans le spatial. Ben, il y a du cuivre, il y a des ordinateurs, il y a vraiment, vous voyez, tous les matériaux qu'on va trouver au quotidien sur Terre. Hein.
Alors, en quantité, en nombre, c'est un véritable nuage. Enfin, là, on est à la radio, c'est difficile de donner quand même un petit peu mais cette image, mais ça devient très compliqué d'éviter tous ces objets.
C'est un grand nuage, mais l'espace est immense, comme je vous disais tout à l'heure, 10 km.
Il reste encore beaucoup de vide.
Il reste encore beaucoup de vide, heureusement. Mais ce qui va se passer, c'est que souvent, il y a des collisions de satellites. Alors, vous avez un satellite qui fait 500-600 kilos dans les premiers qu'on lançait au début de la conquête spatiale et qui, un jour, par hasard, va croiser l'orbite d'un autre de 500-600 kilos. C'est arrivé souvent. Donc, ça se rencontre, ça se cabosse, explosion. Et là, ça part en quelques dizaines de centaines de débris. Alors, il va y avoir des petits débris tout petits, hein, d'un, 2 cm, des débris de 10, de 20, de 40, de 50.
Alors, dans le cas de ces deux satellites, un petit peu d'origine, un peu gros, un peu massif, ils se rentrent dedans. On peut prévoir la collision? Est-ce que
alors,
les scientifiques
c'est surveillé. C'est surveillé.
Est-ce qu'on l'observe? C'est plutôt une source d'observation ou au contraire?
Oui, il y a donc le NORAD, le commandement de l'air américain, qui surveille tous les lancements, qui surveille aussi tous les débris satellitaires. Donc, on surveille aujourd'hui un peu plus de 5000.
Ils sont entre quelle et quelle altitude, globalement?
À toutes les altitudes.
À toutes les altitudes.
De l'orbite basse. Alors, l'orbite basse, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a quand même l'attraction résiduelle de la Terre qui va attirer ces objets et qui vont se consommer régulièrement dans l'atmosphère.
En fait, la gestion, c'est de les projeter dans l'atmosphère afin qu'ils se consument.
Alors, si on pouvait, voilà. Si on pouvait désorbiter un satellite et le faire redescendre et le consommer dans l'atmosphère, on le refait, on l'a fait des fois, on a pu le faire, mais on ne peut pas toujours le faire.
Ça doit représenter un travail énorme, le suivi de tous ces objets. Enfin, je veux dire, oui. Il doit y avoir des services à la NASA ou ailleurs.
Ah oui, partout, même l'Europe.
On surveille ça.
Oui, oui. On surveille d'abord ses propres satellites.
Bien sûr. Hein,
qu'ils n'entrent pas en collision, oui. Voilà, impactés par d'autres satellites.
Et oui, bien sûr. Donc, voilà, ça c'est un... Oui, parce que si on est à bord de l'ISS et que on rappelle quand même la vitesse, parce que la vitesse, c'est de l'énergie, donc si on rencontre même un petit objet de...
À 28 000 km/h.
Qu'est-ce qui se passe à bord de l'ISS?
Eh bien, ça peut faire du dégât.
Est-ce qu'elle en rencontre parfois?
Il y a eu la réparation des panneaux solaires, des gros trous sur les panneaux solaires qui ont été réparés sur l'ISS il y a quelques années, parce qu'effectivement, impactés par des... Alors, soit par des micrométéorites d'origine naturelle,
soit par des
débris satellitaires. Oui. Donc c'est pour ça qu'on surveille. Alors l'ISS, elle a des procédures de pouvoir changer d'altitude. Dès qu'on s'aperçoit qu'un objet arrive à quelques kilomètres et qu'il y a danger de rencontre, ben on va remonter, rebooster l'altitude de l'ISS ou éventuellement, ce qui est plus rare, la descendre.
On a une idée de la masse totale que ça représente, tous ces débris, non?
Non, on pourrait le calculer, il suffirait de faire le calcul de tous les lancements, de tout ce qui a été fait, le poids de chaque satellite. À ma connaissance, ça n'a pas été fait, ou approximativement.
On rappellera quand même ce que tous les astronomes nous rappellent régulièrement, c'est qu'il tombe sur Terre une quantité entre 50 000 et...
Alors, les météorites naturelles.
Météorites naturelles.
C'est ça, on l'évalue à 100 000 tonnes par an.
100 000 tonnes par an, donc voilà, c'est pas, j'allais dire, un phénomène non plus nouveau. Donc Jean-Michel, la conquête spatiale produit des déchets sur la Lune. On a laissé un certain nombre...
Alors là, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a moins d'objets. On évalue à peu près une centaine de tonnes hein, entre les sondes surveilleurs, tout ce qu'on a reçu aussi les Russes. Voilà, c'est une centaine de tonnes.
Voilà. Bon, on retiendra que la pollution de l'espace, elle est réelle, mais que globalement, c'est bien géré, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
C'est surveillé, on va dire. Voilà, très, très surveillé. Hein, parce que, bon, vous voyez, simplement sur l'année 2016, on a recensé 210 nouveaux objets, dont 147 en un seul trimestre.
Oui, en effet. Troisième sujet de notre émission, les sondes et leur destin. Où sont les sondes? Alors, on avait parlé de Rosetta, de Philae, et on avait parlé de Cassini-Huygens, mais il y en a d'autres aussi qui sont en service. Enfin, en tout cas, qui sont...
Pour rebondir sur le sujet précédent, il y en a beaucoup qui ne servent plus, donc ouais. Qui sont des objets poubelles. Hein, donc, alors, celles-ci, elles sont loin, on n'ira plus.
Alors, Rosetta, Philae...
Terminé, c'est sur la comète Churyumov-Gerasimenko.
Voilà.
Donc, 3,5 tonnes pour Rosetta, 106 kilos
voilà.
Pour Philae.
Cassini, c'est fini.
Cassini.
A rappelé qu'elle a plongé dans Saturne.
Alors là, on ne sait pas ce qu'il en reste. Hein, ça a été plongé dans l'atmosphère de Saturne. Et c'est
absorbé par Saturne.
Voilà,
voilà le destin de... Oui. Voilà. Et puis après, on en a quatre autres là, qu'on peut évoquer. C'est Juno, hein, qui est sur Jupiter, Dawn. Et puis aussi... Les anciennes, New Horizons et bien entendu Voyageurs 1 ou 2. Donc un mot sur Juno.
Alors Juno, elle tourne autour de Jupiter. Elle passe au plus près à 5000 km de la géante gazeuse. Vous voyez, elle a une orbite elliptique. Et donc elle s'éloigne aussi un peu plus de 8 millions de kilomètres. Vous voyez, une orbite très très elliptique.
Ouais, hein. Ouais.
Donc la NASA, elle travaille sur cette sonde. Elle reçoit énormément de données sur Jupiter, sur son gaz, sur la composition de son atmosphère. Tout ça.
Voilà.
Voilà, donc on recueille des données, même si on sait déjà beaucoup de choses sur Jupiter.
Alors, la sonde Dawn, en anglais, hein,
alors, Dawn, oui.
Qui est autour de Cérès. Alors, SRS, c'est pas une planète, c'est un gros astéroïde.
C'est le plus gros des astéroïdes de notre système solaire.
Voilà, qui mesure à peu près combien?
500 km.
500 km de diamètre. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait rond.
Hein. C'est une grosse patate.
Pour être une planète, il faut être rond. Hein,
oui. Puis,
voilà, et c'est pas tout à fait rond. Sphérique.
Voilà, mais SRS est entre les deux.
Voilà. Et donc, elle fait cette sonde Dawn, elle tourne autour de Cérès. Qu'est-ce qu'on cherche à connaître sur
Alors, elle a été lancée en 2007. Et bien, c'est la connaissance d'un astéroïde. Donc, elle contrôle un peu des données scientifiques aussi, un peu sur cette petite planète. On a trouvé sur un de ses cratères quelque chose de blanc. Alors, est-ce que c'était du sel? Est-ce que ce sont des résidus de glace? Donc, tout ça, c'est un cours d'analyse. Donc, on essaye de connaître, bien sûr, toutes nos planètes du système solaire, mais aussi tous les objets, les petits cailloux qui tournent.
Voilà, on a New Horizons aussi qui était parti sur Pluton.
Alors sur Pluton, qui file maintenant un peu plus loin, aux confins du système solaire.
Et puis nos deux voyageurs, 1 et 2, qui eux sont sortis après avoir bien servi, qui sont au-delà effectivement du système solaire.
Alors, Voyageur 1, 20,95 milliards kilomètres de distance. Ça nous éloigne, ça nous ferait rêver. Et Voyageur 2, 17,30 milliards kilomètres.
Voilà,
dont on continue à recevoir quelques petites données.
Signaux.
Bon, beaucoup d'instruments sont en panne, mais il y a encore une équipe à la NASA qui travaille sur ces deux sondes.
Voilà, là, on est au bout du bout de la conquête spatiale avec ces deux sondes-là.
On est au bout, on a dépassé un peu les confins de notre système solaire. Hein, ouais. Voilà.
Voilà, ça fait rêver. Et puisque Noël approche, pour nos jeunes amis et pour les plus grands également, quelques recommandations de lecture. Jean-Michel, là, il y a 2 ou 3 livres qui sont intéressants peut-être à recommander.
Un bouquin très très sympa, écrit par Jean-François Clairvaux, à fois astronaute, et Franck Lehaut, qui est médecin spatial. Donc c'est un bouquin qui se lit un petit peu, on peut le prendre à la page où on veut. Hein, c'est l'histoire de la conquête spatiale, et puis on peut rêver sur le futur. Donc vous avez tout dans ce petit livre. Enfin,
voilà.
C'est une bonne idée de cadeau pour Noël, et en plus il est très très facile à lire.
Très bien, donc Jean-François Clairvaux, l'histoire de la conquête spatiale.
Avec Franck Lehaut.
Oui, Franck Lehaut. Et Thomas Pesquet,
Thomas Pesquet qui a mis en livre donc ces belles photos qu'il a pu faire au cours de son séjour dans l'ISS. Donc vous allez retrouver tout ça en librairie. Je pense que notamment celles de Thomas Pesquet seront bien mises en évidence dans toutes les librairies de France.
Voilà, bonne lecture en tout cas avec ces deux auteurs. On termine, Jean-Michel, quand même, parce que cette émission passe effectivement toujours très vite. Eh bien, en rappelant simplement le site de notre association, l'astronomie du Velay et de la Margeride et du Gévaudan.
www.orion43.fr.
Voilà, donc c'est un accès, j'allais dire, à toute l'activité du ciel, de l'activité
du ciel, de l'espace,
du groupe Orion, mais avec des portes ouvertes sur un certain
sur d'autres nombre. Liens qui vont pouvoir avoir des tas de renseignements sur tout ce qui se passe au sud de notre
Donc tête. N'hésitez pas à aller sur le site orion43.fr. Merci Jean-Michel.
Merci Gérard.
Et bientôt à tous.
Voilà.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.